lundi matin à tous. Bienvenue au show du matin. Vous ne vous imaginez pas des choses. C'est Jeff Arsenault qui m'accompagne ce matin et non Max Hock qui est en vacances. Comment ça va, Jeff?
Ça va super bien toi-même. Merci de l'invitation.
Fait plaisir, fait plaisir. Jeff, on reçoit ce matin Daniel Brodeur qui veut nous faire une belle annonce. Comment ça va, Daniel?
Hey, ça va bien, toi, Jeff?
Ça va super bien. Merci pour ta présence. Une deuxième fois que tu viens nous rendre visite, on doit être quand même pas pire accueillant.
Merci de l'invitation, bien apprécié.
Fait plaisir. Daniel, tu as une grosse annonce à nous faire ce matin, la composition de l'équipe Relève du Québec. Tu es entraîneur de cette équipe-là depuis plusieurs années. Comment ça s'est passé, l'évaluation de tes joueuses et pour amener à aujourd'hui là, à choisir tes joueuses?
Ben ça s'est super bien passé. C'est sûr qu'avec le COVID, ça nous a mis un peu de bâton dans les roues. Là. Ça a retardé un peu le processus. On se rappelle que le processus de la sélection de l'équipe du Québec, ça commence dès les championnats provinciaux de l'année précédente, où il y a une première sélection de filles. Ensuite de ça, on a un showcase à l'automne, où là encore, on réduit le groupe. Et on avait un groupe de 22 filles pour débuter le camp d'entraînement. On avait prévu 3 entraînements, 3 évaluations. Il a réussi malgré la COVID. Disons que depuis les fêtes, ça a été plus tranquille, mais on a réussi en février, en mars à ajouter des sélections. Hier, c'était la dernière pratique à Saint-Hyacinthe. Donc, on est prêt là à faire cette annonce-là importante. Là. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin puis qui sont dans l'attente un peu stressante là, des derniers mois. Pour les filles, c'est une étape importante. L'équipe U16, là, c'est vraiment un objectif. Puis, on a eu un groupe de 22 filles très talentueuse, merveilleuse. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le programme. Puis, je te dirais, les premières années, là, on faisait l'équipe en une jasette de fin de semaine de coach tellement qu'il y avait pas beaucoup de profondeur, pas beaucoup de filles et tout. Mais de plus en plus, c'est très difficile de faire l'équipe. C'est tout le mérite leur revient au sport-études, revient aux encadrements que les filles bénéficient dans leur association, là, sont bien préparées. Puis le talent, il pousse d'année en année. Fait que tant mieux pour nous, là, c'est une tâche plus difficile, mais ça fait en sorte que le baseball féminin est très en santé, là.
Absolument. Puis je trouve ça intéressant justement qu'il y ait plus de talent. C'est ça qui est le fun d'être entraîneur aussi, pour faire des choix. Là. Si les choix sont toujours faciles, c'est moins plaisant.
C'est moins le fun.
J'ai envie de faire attendre un petit peu les filles. Puis j'ai quelques questions. Jeff, t'embarque quand tu veux. Choisir une équipe, l'évaluation des filles à l'intérieur, est-ce que c'est plus difficile que d'avoir accès à un terrain extérieur, par exemple?
Ouais, clairement, mais avec les installations qu'on a aujourd'hui, avec les installations des sports-études, je veux dire, là, je vais me vieillir un peu, là, dans notre temps, on faisait des entraînements dans des gymnases de 50 par 100, on n'avait pas de cage de frappeur, on n'avait rien, mais aujourd'hui, les infrastructures à l'intérieur sont tellement efficaces qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Là, si on parle, on a eu une pratique au baseball 360. Ils sont très bien équipés en équipement. Ouais. D'ailleurs, l'ABC est là. On a eu une pratique ensuite de ça au Centre Alphonse Desjardins au niveau des estacades où les installations sont bonnes. Fradette hier à Saint-Hyacinthe, c'était parfait en termes de grandeur de surface. Donc, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'on faisait jadis là en fameux gymnase. Maintenant, c'est plus en gymnase, là, les infrastructures sont superbes, donc ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire l'équipe. Là.
Au niveau de faire l'équipe, est-ce que ma question est peut-être philosophique à la base, mais est-ce que vous choisissez la meilleure équipe ou les meilleurs athlètes pour faire l'équipe?
C'est une bonne question. Souvent, les gens nous posent la question. C'est sûr que si je me ferais une équipe pour une fin de semaine, un Canadien, peut-être que l'équipe serait effectivement différente. Où là, on pourrait se permettre de prendre quelqu'un pour un rôle spécifique, exemple de closer dans un championnat ou quoi que ce soit. Alors que là, on y va plus dans le développement de l'athlète, on y va plus vers le côté athlétique aussi, la projection de développement aussi, c'est important pour nous, parce que, bon, c'est sûr que c'est drôle à dire, si à 15-16 ans, elle a atteint son plafond, mais on voit quand même une projection ou pas dans certains athlètes. Le côté athlétique aussi est beaucoup tenu en considération. Là, on fait beaucoup de lectures de courses, de vitesse, d'explosion et tout. Donc, on recherche vraiment des athlètes. Fait qu'il y a un petit mélange des deux, mais l'aspect polyvalence est très important dans la sélection d'une équipe comme ça pour être capable de voir d'autres positions ou un développement possible des filles.
Qu'est-ce qui attend ces joueuses-là justement pour la prochaine saison?
L'équipe, comme je le dis au jour 1, là, il faut être dédié au baseball quand on décide de faire partie de l'équipe, je l'appelle encore U16, mais il faut que je m'habitue à l'appeler l'équipe de relève. On va dire équipe relève U16, faire la transition. C'est un gros été de baseball. C'est toutes des amoureuses de baseball. Les parents aussi, c'est des amoureux de baseball. C'est du baseball intensif à tous les fins de semaine. C'est des entraînements de semaine. À partir d'un, quand l'école est terminée, là, on est sur le terrain à 4 jours semaine facilement. L'accent est mis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les pratiques, le développement. Ensuite de ça, on va avoir un beau mois de juillet de compétition où là, on va participer un peu plus à des tournois. Entre autres, on a eu une bonne nouvelle là, au niveau de la classique Claude Raymond. Là, l'équipe féminine U16 va faire partie de l'équipe du tournoi de Claude Raymond. Avec la nouvelle structure 3A, 2A au niveau du U16 Bantam, ben, on va participer à des tournois aussi Bantam 2A. Donc, c'est vraiment le focus est mis ensuite de ça pour arriver au mois d'août, se préparer pour un éventuel championnat canadien. Malheureusement, ça fait déjà 2 ans que les Canadiens sont annulés, mais là, on a bon espoir cette année d'avoir nos championnats canadiens qui met fin à notre saison vers la fin août. Cette année, ça va être à l'Île-du-Prince-Édouard. Donc, c'est une grosse été chargée de baseball.
JF, est-ce que tu as une question ou deux pour faire attendre les filles encore un peu? Là, je vois Patrick Beauséjour qui a merci de nous faire attendre. J'aime ça, moi, ça, ce petit côté-là.
Ouais. Non, mais c'est à Summerside cet été, votre championnat?
Oui.
Je sais pas s'il y a déjà été, le site non. est incroyable, là, vraiment, là, une espèce de parc en bois, là, c'est splendide, 2 terrains, là, back-à-back. Vraiment, là, une super belle place de balle, là, vous allez triper assurément. Okay.
Ah, c'est le fun. Non, moi, les dernières années, c'était à Vaughan, en Ontario. Puis les deux, après ça, on est allé en Nouvelle-Écosse, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Puis, ben, les deux dernières années, c'était à l'Île-du-Prince-Édouard. Ça a été annulé. Fait qu'ils sont patients. Ils nous attendent encore après 2 ans. Mais on se croise tous les doigts, là, pour tout le monde, les Canadiens, c'est vraiment le point final à une belle saison. Mais notamment, nous, dans notre cas où on joue pas nécessairement dans une ligue, on participe pas nécessairement à des séries éliminatoires. Il y a la LBAVR qui nous aide depuis les dernières années. Ils nous acceptent dans leur ligue l'été, c'est le fun. Naturellement, on peut pas faire partie des séries parce que, bon, on comprend qu'on peut pas représenter une région particulière. On vient du Québec. Donc, c'est le fun pour nous d'avoir cette compétition-là puis cette motivation à la fin de l'année. Fait qu'on a bien hâte d'aller voir nos amis de l'île du Prince-Édouard.
Parlant d'avoir hâte, je pense que c'est le temps de faire tes annonces, mon Daniel. Je te laisse aller avec ça.
C'est bon. Ben merci. Ça me fait plaisir de présenter l'édition 2022 avec vous ce matin pour notre équipe relève U16. Tout d'abord, je vais nommer la région de la fille puis le nom. L'ordre est absolument aléatoire. Là, j'ai tiré les noms un peu partout, donc il n'y a pas d'ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre de région. Donc, faites-vous-en pas. L'attente va être jusqu'à la fin. Malheureusement, il y aura une 14e et 15e que je vais noter puis qui vont attendre un peu plus longtemps que les autres. Ça va être torsionnaire, là, mais on va débuter par... moi, j'ai 5 filles de l'édition 2021 qui revenaient cette année. Donc, de la région de Lanaudière, Justine Marin. De la région de Québec, Emma-Rose Payette. De la région Laurentide, on avait Florence Breyer et Élie Lassorsa. Godmère, et de la région de Laval, Camille Proux. Donc ça, c'est 5 filles qui revenaient avec nous. Je dis revenir, là, ils ont quand même leur place à faire. Là. C'est pas automatique si tu fais l'équipe plan 1 que tu fais l'équipe plan 2, mais ces 5 filles-là ont mérité, disons, de revenir en 2022. Les 10 autres filles, parce qu'on va avoir une équipe de 15, on débute de la région de Québec, Meredith Roy, de la région d'Outaouais, Mélaya Armand, de la région de Laurentide, Frédéric Noël. De la région de Québec, Raphaël Bouchard. De la région du Lac-Saint-Louis, Keira Labrie. De la région de Québec, Sarah Maud Gagnon. De la région Lanaudière, Chloé Lamontagne. De la région d'Outaouais, Estelle Bergeron. De la région de Québec, Kiana Fauché. Et finalement, on s'excuse de l'attente, Mathilde Beauséjour de la région de Laurentide. Donc voici l'édition 2022 de l'équipe relève U16. Félicitations à tout le monde. Et comme on l'a dit hier, là, malheureusement, ce matin, je suis bien au courant qu'on qu'on fait des malheureuses qui se sont présentées, mais déjà quand tu fais partie des 22 meilleures filles au Québec dans un camp d'entraînement, c'est déjà un accomplissement en soi, puis on les invite à continuer de travailler fort. Là, ces filles-là vont avoir encore la chance de faire l'équipe U16 l'an prochain. Comme je disais, c'est de plus en plus difficile de faire l'équipe U16, donc vous avez, comme j'ai dit, vous avez le droit d'être déçu pour les 30 prochaines minutes, mais après ça, on travaille fort, on va vous aider pour que l'an prochain, comme on dit, ce soit votre tour. Donc, merci tout le monde, félicitations, puis bienvenue à tout le monde dans l'équipe.
Oui, un gros félicitations à toutes les filles qui ont réussi à se faufiler dans comme tu l'as dit, c'est un groupe select, là, donc tu sais, il y a plusieurs talents. Puis j'aime beaucoup penser que c'est pas nécessairement la fin, là, c'est le début de quelque chose, même si tu n'as pas été choisi, il reste l'année prochaine, il reste beaucoup de choses à venir là, à cet âge-là surtout. Merci Daniel pour ces dizaines de minutes avec nous. Félicitations encore une fois à toutes les filles. Puis on se reparle probablement cet été. On va peut-être se croiser aussi sur un terrain de base.
Absolument. Merci les gars. Bien apprécié ce matin. Merci.
Bye, bonne journée.
Salut. Bonne émission.
On fait une petite pause. On revient avec Jeff. On parle d'arbitrage. Salut JF.
Ben, bonjour.
Rebonjour, effectivement, c'est le bon terme. C'est super cool pour vrai des annonces comme ça. J'aime beaucoup le concept. Puis je pense qu'on va pouvoir peut-être faire ça prochainement, peut-être avec l'ABC ou je sais pas si tu as des équipes d'arbitres à annoncer des fois.
Je vais avoir les Jeux du Québec, mes championnats provinciaux. Puis nous, on a déjà commencé les annonces par contre parce que l'investissement intensif est beaucoup plus court. Fait que c'est des gars et des filles qui ont des jobs, qui ont des études parfois. Fait qu'on commence déjà à demander leur disponibilité afin de prévoir les équipes d'arbitres pour les différents championnats. Puis cet été des championnats, il va en avoir pas à peu près. Là. Puis tu sais, pour un jeune arbitre qui pousse même pour un plus vieux à la limite, les Jeux du Québec, ça demeure un événement incontournable dans une carrière. Fait qu'on commence déjà à faire ces annonces-là. Mais officiellement, là, si on avait à les faire en direct comme ça, il y en a une gang qui s'était nerveux. Mais on y va de façon, je dirais pas plus humaine, mais de façon plus pratique dans notre cas.
Ouais, j'allais dire, il y a un certain plaisir, on y prend un certain plaisir à faire ça, mais j'avoue que pour les personnes qui font pas l'équipe, ça peut être un moment décevant, effectivement. On prendra pas plaisir à ça.
Non, mais tu sais, pour des arbitres, là, le stress, je te dirais, c'est que dans un tournoi, mettons, comme les Jeux du Québec ou ailleurs, éventuellement, faut choisir qui seront les arbitres qui vont faire les matchs de demi-finale, médaille d'or, médaille de bronze. Fait que cette espèce d'annonce-là, des fois, vient créer de l'anxiété chez certains officiels. Malheureusement, de la tristesse ou de la jalousie, mais un peu comme Daniel le disait tantôt, faut passer à d'autres choses, s'améliorer, parce que ton tour va venir si tu travailles fort, éventuellement. Fait que on est à peu près à la même place à ce moment-là.
Bon, tout à fait. Puis j'avoue, hein, le côté, justement, il y a juste deux arbitres qui font, ben trois peut-être, là, qui font la finale. Comment ça fonctionne, ça? C'est deux ou trois toujours?
On y va à quatre autant que possible. Au Jeu du Québec, on se prend un peu au sérieux. On y va à six pour les finales. Mais tu sais, on a 12 arbitres, puis c'est des arbitres qui travaillent fort. Puis on se sent toujours mal de dire à quatre de notre gang, mais allez dans les escales, mangez des chips, puis regardez votre chum arbitrer. Fait qu'on les met sur le terrain quand même. Puis bon, ça vient pas dénaturer le sport. On le fait au niveau du baseball majeur également, c'est.
Oui, tout à fait. JF, ce matin, tu voulais me parler de la gestion des matchs. Comment un arbitre va gérer le match? J'imagine que c'est plus l'arbitre en arrière du MAB qui va gérer le match, mais l'arbitre, ses buts, a quand même une gestion à faire. Je te laisse aller. Comment ça va?
Parfait. Mais d'entrée de jeu, oui, l'arbitre au marbre est au centre de l'action. Chaque lancé représente éventuellement une décision, mais l'arbitre ses buts a un job peut-être un peu plus dans l'ombre à effectuer, mais c'est un travail qui demeure quand même important. Dans ces jours-ci, alors que bon, les camps d'entraînement là, commencent un peu partout au Québec, moi de mon côté, je prépare les formations des arbitres. Puis le sujet de la chronique ce matin, c'est que souvent on me dit « Écoute, JF, faut que tu montres à tes arbitres comment gérer une game ». Mais c'est-tu quelque chose qui se montre de façon théorique, là, d'un point de vue impersonnel, je pense pas, parce qu'il faut avoir mangé un peu de balle dans la vie pour être capable de dealer avec des individus, puis notre expérience de vie va venir nous aider un peu. Je peux pas demander à un jeune de 15-16 ans qui est aux études au niveau secondaire de réagir, de gérer des humains, de gérer des adultes, comme moi je vais le faire avec 25 ans d'arbitrage en arrière de la cravate. Fait que On essaie de montrer des petites bases théoriques à nos officiels sans toutefois être capable de leur montrer comment agir parce que ça, on l'apprend en le faisant. Mais ces fameuses bases théoriques-là, mais c'est qu'on leur montre à intervenir en 5 étapes finalement. C'est un protocole d'intervention qui parle de tout simplement ignorer une remarque. Toi, JF, tu joues encore à la fast pitch dans une ligue là de chez toi?
Ouais, tout à fait, tout à fait.
Ben. Bon, c'est ça, moi aussi, de mon côté, là, à un très bon niveau, là, autant le dire tout de suite. Mais des fois, il y a des commentaires qui sont faits, puis j'entends des commentaires qui sont faits à l'endroit des arbitres. Tu peux pas réagir à tout ce que tu entends parce qu'à un moment donné, tu vas virer fou là, si à chaque fois quelqu'un crie commande ou quelqu'un démontre un certain désaccord avec une décision, tu décides de réagir. Fait que des fois, on va tout simplement ignorer ce qui est dit. On va faire semblant de pas entendre. Parce qu'éventuellement, le fait de réagir va juste nous aider à creuser notre propre tombe alors que c'est pas ça qu'on veut du tout sur le terrain.
Absolument, absolument. Est-ce que, parce que je fais le parallèle avec la balle molle, tu sais, les ligues de semaine, des fois, c'est pas nécessairement des arbitres qui sont là pour la passion de la balle, c'est plus pour le 15-20$ pour la game, puis ils suivent pas nécessairement de la formation régulièrement. Tout ça, j'ose croire qu'au baseball, c'est pas comme ça, parce qu'il n'y a pas nécessairement des ligues de semaine du même genre que la balle molle. Mais est-ce que pour justement arriver à ignorer ça, parce que j'ai l'impression que les commentaires au niveau des ligues de semaine de balle molle puis de ligues de baseball, c'est différent quand même, là, parce qu'on connaît plus les arbitres, j'ai l'impression, à balle molle, c'est tout le temps les mêmes. C'est quoi le... C'est juste, on dit juste au monde, non, non, gars, ignore complètement ce qu'il dit vraiment, parce que c'est facile en théorie, mais en pratique, c'est un autre game là, d'ignorer. Et chaque personne est différente. Là.
Mais ça ne sera pas ignore pour de vrai, ça va être ignore et patiente, là, c'est-à-dire que le bill monte, là, le bill s'accumule parce qu'éventuellement, un commentaire dit une fois va, c'est bon, on va passer à d'autres choses, mais si le commentaire est répété, ce que vous allez voir à l'écran dans quelques secondes d'ailleurs, c'est une espèce de gradation des interventions. Fait que dans un premier temps, on peut ignorer, certes, mais éventuellement, il va avoir une réponse non-verbale. T'sais, un long regard vers un joueur, c'est une espèce de confrontation visuelle, ou encore des fois pour un arbitre qui a son masque, le simple fait d'enlever le masque, quelques pas vers l'abri, tu sais, puis juste montrer, tu sais, écoute, je t'ai entendu, là, mais à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Puis si jamais ça suffit pas, ou des fois peut-être que le commentaire est tellement grave ou a un impact réel sur le match que ça mérite une réponse verbale. T'sais, un entraîneur qui s'avance de quelques pas, un entraîneur au troisième but qui s'avance de quelques pas parce qu'il est en désaccord avec la zone de prise, mais là, à ce moment-là, on est dans la contestation de la zone de prise, fait que l'arbitre au marbre va réagir verbalement en disant « Écoute, retourne dans ta boîte » ou même on va aller du côté de l'avertissement ferme. Un avertissement ferme, mais là, c'est qu'on est rendu pratiquement à l'ultimatum. Comme arbitre, c'est toujours un peu difficile parce qu'on veut pas nécessairement tomber dans les menaces. Sauf que on en est là pareil, c'est écoute, si jamais ça cesse pas immédiatement, il y a quelqu'un qui va devoir payer malheureusement. Et au final, il y a l'expulsion. Ou est-ce que là, mais il est trop tard malheureusement, il va y avoir une sanction. Ou est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de retour finalement? Fait que ça, c'est notre protocole d'intervention en 5 étapes. Et ce qu'on montre à nos officiels maintenant, c'est d'essayer de naviguer, d'être à la bonne place dans ce fameux protocole-là, de pas expulser lorsque ça leur est mérité, une réponse non-verbale, puis vice-versa. Fait que là, on en vient à quelque chose de relativement complexe à mettre en exécution, surtout pour un jeune arbitre.
Absolument. Je suis pas impliqué dans le baseball mineur au niveau des terrains à l'année, comme toi tu l'es. Puis j'imagine selon l'âge de l'arbitre, selon l'âge des joueurs, tout est complètement. C'est tout des niveaux. C'est pour ça que quand tu parles d'avoir de l'expérience et d'agir de la bonne façon, écoute, c'est très différent avec les 14 U puis les adultes. Là.
Oui, mais si on va au niveau du baseball mineur, là, tout ce qui est les divisions ou les classes de jeu A et B, c'est la règle 103.21 qui s'applique où est-ce que l'entraîneur n'a pas le droit d'aller discuter aux arbitres pour d'autres raisons qu'un changement, une substitution, ou encore pour déposer un protest qui peut arriver à l'occasion en tournoi. Donc, chacune des décisions, chacune des situations n'est pas matière à discussion techniquement, là, si on se fie au livre, c'est une expulsion de manière systématique. Il y a certains arbitres qui vont l'appliquer de façon systématique, libre à eux. Il y a d'autres arbitres qui vont y aller avec un avertissement formel avant de passer à l'expulsion en disant au coach, écoute, t'as pas le droit de venir me parler, commence pas ça. Et si jamais l'entraîneur décide de s'aventurer quand même, il va y avoir expulsion. Fait que ça, il y a une règle qui est là pour venir backer nos jeunes arbitres. Par contre, t'as 14 ans, t'as un adulte qui s'avance sur toi en te criant des bêtises. On peut comprendre ces jeunes-là d'être nerveux à l'occasion face à ce qui peut quasiment être perçu comme une menace, là, finalement.
Absolument. Gestion de match implique quand même beaucoup de choses. Comment est-ce qu'un arbitre derrière le marbre peut reprendre un match échappé par l'arbitre sur les buts? Parce que ça aussi, ça arrive des fois que l'arbitre fait un mauvais call, peut-être un mauvais discours envers un entraîneur, le match est échappé par cet arbitre-là, les deux bancs, il y a peut-être de la chicane, tout ça. L'arbitre derrière le marbre, c'est quoi sa responsabilité pour venir calmer le jeu par rapport à ça?
Souvent, ça va être l'inverse, je te disais. C'est comme arbitre au marbre, si ton partner sur les buts en échappe une, faut vivre avec, là, puis faut espérer qu'il se fasse oublier pendant quelques manches. Il y a très peu de choses qu'on peut faire, à part peut-être une job de mentorat pour un arbitre au marbre qui est plus vieux qu'un arbitre moins expérimenté sur les buts, d'aller voir l'entraîneur par la suite puis dire, OK, là, regarde, passe à d'autres choses, là, la game va bien, faut que tu vives avec, tu peux pas revenir en arrière. Fait qu'il y a un travail psychologique qui peut être fait. Par contre, l'inverse devient intéressant. Où est-ce que des fois, on a un arbitre au marbre qui connaît pas sa meilleure soirée? Ça peut arriver. Toi, comme arbitre au marbre, là, puis c'est ce que les gens doivent savoir, c'est que, sauf exception, la personne la plus critique du travail de l'arbitre au marbre, c'est l'arbitre au marbre lui-même. Puis ça, les lancers manqués, c'est qu'on les voit pendant... on les revoit dans notre tête pendant longtemps, puis souvent, on le sait. Fait que même nous, il faut qu'on se dise, OK, on passe à d'autres choses, là. C'est qu'on on efface le tableau, puis la prochaine manche, c'est une nouvelle manche. Fait que même, il va y avoir des exercices de relaxation qui, des fois, sont enseignés aux arbitres entre les manches en disant, va-t'en sur une des deux lignes, là, fixe un point loin dans le champ, pense à d'autres choses pendant une minute, puis revient les deux pieds sur terre pour la manche suivante. Mais pour revenir à l'arbitre des buts, comment il peut aider? C'est qu'un arbitre sur les buts qui est peut-être impliqué moins directement dans le match doit demeurer alerte parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver sur les buts. Là. C'est la difficulté de la chose de toujours rester prêt, même si on peut être une demi-heure là, sans avoir d'action à l'occasion. Mais tu sais, c'est de voir ces signes-là, de voir ce que notre arbitre au marbre aurait besoin d'aide. Des fois, ça va être, par exemple, je ne sais pas, une visite au lanceur. On a un arbitre au marbre qui est en confrontation avec un entraîneur. L'entraîneur rend une visite au lanceur. Techniquement, selon les protocoles du baseball, c'est l'arbitre au marbre qui va mettre fin à la visite au lanceur. Des fois, tu vois que l'arbitre au marbre, ça tente plus ou moins d'y aller parce qu'il veut éviter une confrontation. Ben, c'est l'arbitre de ses buts qui va aller mettre fin à la visite. Fait qu'il y a une espèce de travail d'équipe qui peut s'effectuer à ce moment-là. Mais je te dirais que peu importe la position qu'on occupe sur le terrain, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un arbitre plus âgé, un espèce de mentor qui peut prendre la chaleur, puis dire à son partner, va prendre une marche, là, je vais gérer ce que je peux gérer, concentre-toi sur ton match. Fait que quand on est capable de faire ça, c'est tout à fait génial.
Oui, mais j'allais là, le côté mentorat, j'imagine qu'à la plupart du temps, le mentor va être derrière le marbre ou ça dépend vraiment de où le plus jeune est rendu dans son processus?
Ben, ça dépend où est-ce qu'il est rendu. J'ai donné l'exemple la semaine dernière, j'étais avec Max Sock. J'ai amené un arbitre qui avait jamais fait plus haut que du 15U2A au marbre. Dans le temps même, ça s'appelait Bantam 2A, puis il y a eu la COVID entre-temps. Je l'amène faire un match de l'ABC en fin de saison. Il était au marbre. Dans ma tête, c'était clair qu'il était prêt. Mais moi, j'agissais comme mentor sur les buts. Okay. Puis c'est arrivé deux, trois fois en démanche où est-ce que j'étais allé valider là, ses façons d'arbitrer, que ce soit des points positifs ou des pistes d'amélioration à l'occasion, mais il faisait bien ça. À d'autres moments, lorsqu'on prend une chance un petit peu plus, mais on va dire à l'arbitre, viens-t'en sur les buts pour te familiariser avec l'environnement de la ligue, je vais aller au marbre, puis si jamais, éventuellement, il y a quelque chose qui arrive, mais je vais prendre le lead pour te venir en aide. Fait que le mentorat s'effectue dans les deux sens. Si quelque part, au mois de mai ou au mois de juin, je m'en vais faire un 13U ou un 15U, possiblement que personnellement, je vais le faire sur les buts. En appui à un jeune collègue, puis je vais être capable de donner des conseils entre les manches de façon discrète également.
OK. J'allais au niveau de, justement, de continuer par rapport à ça, là, mais tu parlais tantôt, parce que je trouve que la job d'arbitre, tu sais, il faut que tu sois vraiment passionné, puis tu le mentionnes souvent. Mais la job, ça prend sur le terrain. Tu sais. C'est la grosse partie. Tu parlais que c'était justement difficile d'aller dans le théorique au niveau de la gestion de match. Il y a d'autres aspects de l'arbitrage que le théorique n'est pas facile. Oui, on donne des pinpoints, là, on donne des grandes lignes, mais tu vas apprendre sur le terrain. C'est ça. J'allais juste. Mon point, c'est juste comme tu m'en parles, puis comme ouais. C'est tellement pas facile d'être un arbitre puis d'apprendre. Il faut que tu ailles sur le terrain, puis ça se peut que tu en échappes des matchs, puis ça se peut que tu échappes des choses, mais tu vas apprendre puis tu vas devenir meilleur.
C'est, apprendre, c'est de commencer par accepter ses propres erreurs puis à bâtir là-dessus. Ouais. Si on fait tous des erreurs, puis à un moment donné, c'est à toi là, après le match, de dire bon, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, d'aller chercher des ressources. Moi, je m'en rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune, j'allais voir des matchs de junior élite, j'osais avec les arbitres, et puis éventuellement en observant les autres, j'ai beaucoup appris. Fait que, il y a différents moyens d'apprendre, par l'exemple ou quoi que ce soit, pas juste dans les livres. Sauf que, au niveau de la partie théorique, il faut quand même la maîtriser. C'est-à-dire que tes règles, ou à tout le moins la grande base des règles, là, disons le 90% des règles là, qu'on utilise de façon usuelle, faut les maîtriser. Puis ça demande pas de talent, là, ça demande juste du temps, puis ça demande de l'investissement pour apprendre ces règles-là. C'est sûr qu'éventuellement, pour des arbitres élites, apprendre les exceptions, les interprétations, là, c'est qu'on tombe dans quelque chose de beaucoup plus complexe. Est-ce qu'on va tout... puis tu parlais tantôt d'apprendre sur le terrain ou de la complexité de la chose. Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis au niveau de la gestion de match, par contre, je parlais à Tania Millette là, de façon informelle la semaine dernière, qui revient tout juste d'un camp professionnel. Ouais. Eux, là-bas, ils ont une liste. C'est-à-dire que voici à peu près là, ce qui correspond à tel guideline. Telle ou telle information, telle ou telle intervention, c'est-à-dire, ben ça correspond à un avertissement ferme. Alors, lorsque l'entraîneur s'aventure sur un tel terrain, mais à ce moment-là, c'est une expulsion. Tu sais, je te donne un exemple bien simple, JF. Un entraîneur qui vient me voir, qui me dit « T'es un maudit vendu. » Même si c'est une expulsion automatique, là, même s'il n'y a pas, pas d'asparage, il n'y a pas de flamèche, c'est que tu es en train de me dire que, personnellement, je mets mon intégrité de côté pendant deux heures et demie, et ouais. Que pour la modique somme de 30, 40, des fois 70 $ au niveau j'arbitre, je suis achetable. Ben écoute, là, c'est quelle insulte là, remarquable, là, c'est une expulsion assurée à ce moment-là, de venir mettre l'intégrité de l'arbitre en doute. Fait qu'il y a des points où il y a des lignes à ne pas franchir de ce côté-là.
Oui, absolument. Il y a des gestes, puis il y a des arbitres plus patients que d'autres avec certains termes, tout ça, mais est-ce que parce que gestion de match, ça inclut aussi les parents ou les spectateurs, là, c'est pas nécessairement juste des parents, ça peut être d'autres jeunes. Là. Comment ça se passe? C'est l'arbitre en arrière du banc qui a le contrôle? Est-ce que l'arbitre, ses buts, va aider ce côté-là? Qu'est-ce qui est enseigné aux arbitres par rapport aux parents ou aux spectateurs?
Ben, en fait, il y a pas l'arbitre au marbre n'a pas réellement plus le contrôle que l'arbitre sur les buts. Au niveau des règles de jeu, là, les circonstances pour lesquelles l'arbitre au marbre a vraiment un contrôle à lui seul, c'est assez limité. C'est des rares situations où est-ce que l'arbitre au marbre doit absolument prendre le lead. Les arbitres ont la même autorité sur le terrain. C'est pas comme au hockey, par exemple, où est-ce que l'arbitre en charge emmène un petit peu plus large. Côté baseball, là, ça n'a pas du tout rapport. Même que si tu vas au niveau du baseball majeur, ils ont un chef d'équipe, un crew chief, qui lui va prendre en charge les situations plus complexes. Par rapport aux spectateurs, je te disais que de façon historique, on a toujours dit aux arbitres, ignorez ce qui se passe, c'est pas votre job, faites semblant de pas les entendre. Sauf qu'à un moment donné, je crois qu'on est rendu à un tournant dans le sport amateur où est-ce que ça peut plus durer comme ça. C'est partout dans toutes les autres sphères là, de la vie, ce qui s'appelle carrément de l'intimidation, c'est quelque chose qui est dénoncé, qui est décrié. Puis nous, on arrive sur un terrain de baseball, puis soudainement, dans certains cas, ça devient permis. Puis l'exemple que je donne souvent, il y a quelques années, tournoi Pee-Wee de Saint-Jérôme, on me demande d'aller faire deux matchs un matin. Il survient une expulsion sur un jeu particulier où est-ce que, bon, je décide que l'entraîneur s'est terminé, il a dépassé les bornes. L'espèce de chicane sur le bord de la clôture qui est devenue rapidement personnelle. L'entraîneur, après la game, cherchait à venir s'expliquer avec moi, puis dans des termes, c'est pas très, très poli. Alors que le soir même, je vais faire un match de niveau senior élite à Sherbrooke, qui a à peu près 500 spectateurs dans les estrades. Il y a un jeu controversé au premier but. Tout ce que j'entends, c'est ouh, puis ça baisse. Fait que tu sais, c'est que ça devient vite personnel au niveau du baseball amateur, puis ça devient très rapidement. De de l'intimidation volontaire ou pas. Puis là, à un moment donné, c'est qu'il va falloir qu'on se penche sérieusement sur la question. Là, j'ai pas la réponse à tout, sauf qu'éventuellement, il va falloir que les parents qui commettent là, du harcèlement envers des officiels se fassent ramener à l'ordre, que ce soit par des parents qui sont témoins de la situation, qui disent slack un peu, ou encore par des organisations de baseball mineures qui prennent en compte la sécurité puis le bien-être des jeunes arbitres.
OK, tout à fait. Fait que ça, c'est ça. Ça vient pas juste. Il y a une responsabilité à ce niveau-là qui vient des spectateurs eux-mêmes, justement.
Tout à fait.
JF, ça passe pas mal vite ce matin. Merci d'avoir été là. Il y avait du monde. Je suis vraiment content. JF, c'est ça. Gros sujet. On se revoit possiblement la semaine prochaine. T'as pas de disponibilité, c'est vrai. On se revoit dans 2 semaines. La saison achève quand même. Là, on n'a pas parlé ben, mais on va terminer vers, je pense, c'est fin avril, début mai qu'on termine la saison. Donc, je te laisse le temps de préparer encore quelques chroniques. Max va être de retour, puis on va jaser d'arbitrage encore. Mettons un 4-5 chroniques encore d'ici la fin de l'année. Je pense que tu peux te préparer pour ça.
Ben, c'est cool. Toujours un plaisir.
Yes, merci JF. Merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit mercredi. Salut.
Membre de la famille H2O Web Media.